à la foi, foi qu'il a héritée de ses parents. C'est ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux mentionne quand il dit que ses parents ne craignaient pas l'ordre du roi et il vit que l'enfant était beau. Et il faut bien comprendre, et on ne va pas détailler ce soir, je dirais, comment et les circonstances dans lesquelles Moïse s'est retrouvé sur le Nil, parce que vous connaissez parfaitement cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'il était sur le Nil et qu'il était là, programmé pour mourir, comme c'était le vœu du pharaon qui était en charge du pays à l'époque, il a été recueilli, retrouvé par la fille de Pharaon. Elle a pris en sympathie ce nouveau-né, et on sait que cela lui a permis de grandir, de vivre, mais il a grandi et il a vécu à la manière des Égyptiens. Sauf que il avait parfaitement conscience d'où il venait, de qui il était et de qui était son peuple. Vous savez, il y a un film, un dessin animé plutôt, qui passe souvent, qu'on a passé à l'église, ça s'appelle « Le prince d'Égypte ». Vous connaissez sûrement ce film-là. Il est bien, il est beau, mais ce film nous présente l'histoire comme Moïse, au bout d'un moment, va se rendre compte qu'il n'est pas égyptien, mais qu'il est israélien, qu'il est hébreu. Mais voyez-vous, c'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il avait pleinement conscience de qui il était. Il savait que lui avait des privilèges que ses frères et sœurs n'avaient pas. Et il voyait de plus en plus le peuple de Dieu être oppressé, être maltraité. Et c'est pour cela que dans Actes 7, au verset 17, ils attendaient, Moïse et le peuple de Dieu attendaient la promesse qui avait été faite. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Oui, mes frères et sœurs, le peuple de Dieu attendait la promesse de Dieu, la promesse du fait qu'il soit délivré, libéré. Nous attendons la même promesse, non ? Seigneur, viens nous chercher. Ça devient trop compliqué. Seigneur, ça sera la meilleure des choses. Mais on sait aussi que le Seigneur a fixé ce temps et que ce n'est pas à nous de savoir le jour ni le moment. Mais nous devons rester dans la même attitude de foi que Abraham, que Moïse, excusez-moi, qui crut jusqu'au bout que la promesse s'accomplira. Alors Moïse a grandi. Moïse a grandi avec sa famille, je dirais, égyptienne. Mais on sait qu'au bout d'un moment, il va y avoir un désaccord entre Pharaon et Moïse, entre sa famille et lui, parce qu'il n'est pas d'accord de la manière dont l'Égypte est en train d'oppresser le peuple de Dieu, en sachant qu'il avait en vue les promesses de Dieu concernant son peuple. Alors, la parole de Dieu ne nous dit pas si au sein de la famille familiale, de la famille royale plutôt, il va y avoir une vive discussion, une vive dispute, mais ce qui est sûr et ce qui est marqué, c'est écrit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux ou préférant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Vous savez, Moïse ne manquait de rien. Il a vécu une période de sa vie où il disposait de tout ce que l'Égypte pouvait lui apporter. Les biens matériels, les biens, je dirais, même alimentaires, il ne manquait de rien. Mais voyez-vous, il a préféré. Voyez-vous, c'était même quelque chose, il ne voulait plus, la refuser d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et pourtant, plus d'un Égyptien pensait bien, vous pensez bien que plus d'un Égyptien aurait aimé quand même être à sa place, non ? Lui qui n'est pas Égyptien, il se retrouve à cette position, alors que les Égyptiens aspiraient sûrement à de tels, je dirais, de tels niveaux de hiérarchie. Il avait un pouvoir, il avait une autorité. La parole de Dieu nous dit même que Moïse était puissant en parole et en acte. Voyez-vous, c'est quelque chose de réel, mais il a refusé. Il a refusé le pays d'Égypte. Ce pays d'Égypte qui est le pays de la fertilité. Vous savez que Sodome et Gomorre, avant même d'être détruits par Dieu, il était dit que c'était comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'était une région extrêmement fertile, mais bien évidemment, c'est aussi synonyme, je dirais, de ce monde qui est là et que nous voulons fuir. Nous sommes tous sortis du pays d'Égypte. Amen. Il a cru aux paroles de Dieu. Il a cru en promesses. Et nous devons aussi, mes frères et sœurs, refuser le confort, refuser sûrement la facilité et toujours choisir Jésus. Et nous l'avons chanté. Seigneur, c'est si bon de marcher avec toi. N'est pas noté, mais au bout d'un moment, dans la parole de Dieu, il est dit, « Ah, je me souviens, quand tu me suivais même au désert. » Et des fois, il y a des déserts. Et c'est là où Dieu se trouve. Et c'est là aussi où Dieu nous conduit. Mais voyez-vous, c'est comme cela. Nous voulons suivre Jésus. Et Jésus nous dira que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc Moïse a fait ce choix important. Il a préféré être maltraité avec son peuple. Ce mot préféré, il est quand même beau. Il a regardé avec ce que l'Égypte lui proposait. Et puis il a regardé aussi l'opprobre de Christ, comme cela est dit, et il a préféré être avec ses frères maltraités. Il a choisi Dieu, il a choisi de suivre Dieu par la foi, il a choisi de prendre la défense du peuple de Dieu et par là, la défense de Dieu lui-même. C'est son partage. Je choisis Dieu. C'est quelque chose qui est quand même merveilleux. Sa foi en la promesse de Dieu l'a poussé à se positionner pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour les promesses qui concernent Dieu. Vous avez remarqué ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit? Il dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Un jour, un jeune m'a dit, je ne comprends pas ce verset. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit, parce qu'à l'époque de Jésus, de Moïse, il n'y avait pas Jésus. Comment il pouvait-il voir le Christ? Vous savez que le Christ, ça signifie le Messie. Il avait en vue la promesse qui avait été faite, que le Messie viendrait et qu'il libérerait son peuple, qu'il y aurait là une nation qui serait libre et qui serait, je dirais, croissante. Il était attaché à ça, à la venue du Prince de paix. Et nous devons, mes frères et sœurs, être également attachés à la même promesse, non? Lui, il avait en vue le Messie qui devait venir. Nous savons qu'il est venu et nous savons qui est Christ. Christ, nous savons qui est le Messie, c'est Jésus. Si nous sommes réunis là ce soir, c'est pour Jésus. Amen. Et voyez-vous, c'est une réalité, même si je dirais que la croix est derrière nous, dans le sens où cela fait maintenant plus de 2000 ans que la croix est passée. Mais nous sommes toujours attachés à ces mêmes promesses, dans ce que dit la parole de Dieu, que Jésus va revenir bientôt. Vous savez pourquoi il est parti, mes frères et sœurs? Ouais, il est parti pour nous préparer une place. Alors c'est vrai que l'épreuve de l'attente, elle paraît un petit peu difficile, mais le Seigneur est là et il veut, en nous laissant ses exemples tels que Moïse, que nous ayons la manifestation de la même foi que Moïse. Regardez ce qu'il est dit, Hébreux 6, au verset 11 et 12. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi, et la persévérance hérite des promesses. » Mes frères et sœurs, nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Et il y a un encouragement pour chacun de nous. Il est dit, ayez le même zèle pour conserver, pour protéger, pour défendre ce qui est dans la parole de Dieu, cette pleine espérance de savoir que Jésus revient et qu'il va venir chercher son Église. Alléluia. Et c'est bien sûr pour cela que le Seigneur nous a laissé son Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous guider dans ces temps qui sont difficiles. Et oui, il nous faut imiter cette foi. Mais ce n'est pas toujours évident, hein, et on va le voir. Parce que Moïse a cru en ce que Dieu avait dit, il avait cru en ses promesses, il avait cru que le prince de paix plutôt viendrait, il voyait les choses qu'on ne pouvait pas voir, c'était invisible, mais il était attaché à ça. Il dira, je sais qu'il y a un avenir meilleur. Et ce mot me plaît tellement que je le redis. Il préféra. Frères et sœurs, ce n'est pas un choix à la légère qu'il a pris. Hein. Ce n'est pas sur un coup de tête parce qu'il y a eu un désaccord avec ce qui se passait pour le peuple de Dieu. Non, c'était pleinement réfléchi. c'était pleinement en maturation dans son cœur et dans son esprit. Il a pris position, il a préféré souffrir avec ses frères que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oui, l'Égypte était sûrement le seul pays qui pouvait offrir autant de richesses. Mais lui, il a refusé ça. Il a regardé l'opprobre de Christ. Alors, mes frères et sœurs, je vais vous dire et vous poser cette question. Encore aujourd'hui et tout au long de notre marche, qu'est-ce que nous préférons? Qu'est-ce que nous choisirons? Qu'est-ce que nous choisissons? Je crois qu'il nous faut choisir comme Moïse l'a fait, l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tout ce que le monde est capable de nous proposer et même, je dirais, tout ce que le monde évangélique est capable de nous proposer. La parole de Dieu doit avoir autorité au sein de l'Église. Alléluia, c'est elle seule qui peut nourrir, c'est l'Esprit de Dieu. Il est le berger des bergers. Il est le berger de tous les enfants. Celui qui le suit, c'est notre berger à chacun. Et l'opprobre, c'est quelque chose qui signifie sujet de honte pour quelqu'un. Il a préféré la honte. C'est quand même fort, hein? Mais moi, je vais vous dire, Romains 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu » pour le salut de quiconque croit. Il y a marqué aussi, Marc, au verset 8, et au chapitre 8, verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père. » Ah, mes frères et sœurs, n'ayons pas honte d'être, je dirais, disciples de Christ. N'ayez pas honte, mes frères et sœurs, de souffrir pour Christ. N'ayez pas honte. Parce que on sait les promesses qui nous attendent. Amen. On ne peut pas avoir honte de l'Évangile. C'est quelque chose, et ça mène forcément des conséquences comme ça a mené pour Moïse. Mais lui, il a regardé à Christ, à savoir Jésus. Il a préféré souffrir pour Jésus que faire des choses, on peut le dire comme cela, pour Jésus, mais sans Jésus. Préfère souffrir avec toi, Seigneur, si cela est ta volonté. Pas me souiller. Quelque chose qui est important, la Bible dit qu'il ne faut rien modifier, rien retrancher, rien rajouter et qu'il faut garder la parole telle qu'elle est, la mettre en pratique. Et en quelque sorte, si quelqu'un modifie, si quelqu'un retranche, si quelqu'un rajoute, alors il a honte de l'Évangile. Il a honte des paroles de Jésus. Quand on parle plus de la croix, c'est qu'on a honte de parler de ça. Pourtant, la croix est une réalité, mes frères et sœurs, et ça ne changera jamais. Et c'est pour ça que l'évangile de Christ n'a pas besoin d'être modifié, actualisé, je dirais, ou même réformé. Ce qui a été réformé, c'est à cause des hommes, parce qu'au bout d'un moment, il y a eu besoin de réforme quand les hommes ont mal compris la parole de Dieu ou l'ont laissé de côté. Nous voulons défendre cela, l'évangile. Amen. Philippiens 1, 16. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Bien évidemment, c'est Paul qui est en train de parler. Je suis établi pour la défense de l'évangile. Nous ne sommes pas contre les choses. Nous sommes pour l'évangile. Amen. Si vous êtes d'accord avec ça, je continue alors. Au bout d'un moment, quand l'évangile est là, à la même manière que Moïse s'est retrouvé confronté à l'oppression de l'ennemi de nos âmes, il a pris position pour Christ. Il a pris position pour Jésus. Et c'est la même, c'est ce que nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons faire. Nous chantons ce chant qui est merveilleux, nous chantons souvent à Avignon, je ne sais pas si vous le chantez ici, mais « Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans la maison du Seigneur. » Il est beau ce chant. Et les psaumes qui parlent de la même manière, le psaume 84 dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Mais regardez ce qu'il dit. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Je préfère être sur le seuil. Des fois, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas, que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a mis de côté. Mais même le psalmiste, il dit, mais moi, je préfère être sur le seuil. Je ne suis pas dans la maison, je suis sur le seuil. Nous avons ce privilège de savoir que Dieu nous a accordé les portes de sa maison, il nous a accordé la pleine rentrée dans sa maison par la puissance, bien évidemment, de Christ à la croix. Alléluia. Donc oui, je suis défenseur de l'évangile parce que l'évangile se propose, mes frères et sœurs. Il ne s'impose pas. Nous ne sommes pas, je l'ai noté, des modificateurs, mais des proclamateurs. Amen. Amen. Je proclame l'évangile tel qu'elle est. Voyez-vous, Philippiens 1:7, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui, tous qui participez à la même grâce que moi. Certes, Paul s'adresse aux Philippiens, mais mes frères et sœurs, cette lettre est parvenue jusqu'à nous. Non ? Donc, il s'adresse de la même manière à nous, par l'Esprit de Dieu. Et il nous dit, vous qui, tous qui participez à la même grâce, soit dans la défense, des fois il a dû défendre l'évangile, soit dans la confirmation de l'évangile. Paul, Moïse et bien d'autres ont beaucoup souffert pour la défense et la confirmation de l'évangile. Amen. Alors oui, Moïse a reçu, on revient sur Moïse, ferme, je pourrais dire la parenthèse, mais Moïse a reçu quelque chose sur son cœur de fort. Mais la Bible dit que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Et mes frères et sœurs, tous dans notre marche, au bout d'un moment, on s'est senti debout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on est tombé, non? Non, vous ne tombez pas? Moi, je peux vous dire que celui qui pense être debout devrait faire beaucoup plus attention, parce que le Seigneur risque de le faire tomber. Je le redis, parce que le Seigneur risque de le faire tomber. Parce que le Seigneur nous veut auprès de lui. Il veut qu'on lui fasse confiance. Et Moïse a pris cette position. Ah, c'est quelque chose de bien. Il préféra être maltraité avec ses frères. Mais, ça ne s'est pas passé comme il voulait. Ça ne s'est pas passé comme il aurait aimé que ça se passe. Et bien là, franchement, on se retrouve bien dans l'histoire de Moïse. Hein. Ça ne se passe pas toujours comme on avait prévu que ça se passe. Ça se passe pas comme on aurait aimé que ça se passe. Alors que Moïse y prend position pour l'Éternel, alors qu'il préfère l'opprobre de Christ, cette honte-là, préfère être maltraité avec ses frères que d'avoir la jouissance du péché pendant un temps, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Rien comme il avait prévu. Pourquoi? Parce qu'il doit aller d'abord à l'école de Dieu. Vous savez, cette école dans laquelle nous sommes tous. Si quelqu'un ici me dit, moi je suis sorti de l'école, oui, peut-être de ton emploi séculier ou dans ta jeunesse, tu es sorti. Mais de l'école de Dieu, on ne sort jamais. L'école de Dieu, c'est jusqu'à la fin. Et oui, il y a quelque chose que Moïse a dû apprendre de très important. Je vous inviterai, mes frères et sœurs, si vous le voulez bien, à relire Deutéronome 8 en entier. Mais je le lis pour vous au début. C'est sûrement un des passages les plus marquants, en tout cas pour moi, de l'Ancien Testament. Deutéronome 8:1. Vous observez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui. Qui c'est qui dit pas amen à ça? Seigneur, ah oui! C'est le désir de mon cœur. Je veux suivre tes commandements, tes prescriptions, afin que vous viviez et que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Alléluia! Seigneur, je veux rentrer dans ce pays promis. Je veux voir la puissance de ton nom. Je veux voir des miracles aujourd'hui. Je veux voir le Seigneur un réveil, je veux voir la Pentecôte, je veux voir vraiment la plénitude de l'amour, la plénitude de la foi. Seigneur, je désire entrer dans ce pays. Fais-moi rentrer de la même manière que tu as fait rentrer Josué. Ça, c'est le cri de nos cœurs. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. Mais il est dit quelque chose d'important. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi. Regardez ce qu'il est dit. Afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qui n'avait pas connu comme tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce n'est pas des paroles que Jésus a reprises, mes frères et sœurs. Il dit, voyez-vous, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi ces 40 années dans le désert. Parce que ce n'est pas que Moïse s'était trompé sur sa prise de position, sur l'engagement qu'il a choisi, c'est-à-dire de préférer Christ. Il ne s'est pas trompé, ce n'était pas pour qu'il retourne au pays d'Égypte. Mais le Seigneur l'a amené dans le désert. afin de voir les véritables dispositions de son cœur à lui, mais aussi à tout le peuple. On sait, le Seigneur l'a dit, afin de voir si oui ou non tu vas garder, à savoir si oui ou non est dans la difficulté, tu vas continuer à me faire confiance. Si oui ou non tu vas continuer à faire confiance en l'Éternel ou tu vas regretter tes choix. C'est parce que le peuple de Dieu a fait avec Moïse dans le désert. On était mis en Égypte. On n'aurait jamais dû sortir. La manne, c'est bien, mais bon, ils l'ont quand même traité de nourriture misérable. Quelque chose qui est des fois difficile à comprendre, mais eux, ils ne sont pas rentrés dans le pays promis. Alors oui, il avait ses plans. Il voulait être avec ses frères, souffrir avec ses frères. Vous êtes d'accord? Je l'ai dit plusieurs fois, c'était fait exprès. Ce n'était pas pour me répéter, mais c'est pour que ça rentre dans nos cœurs et dans notre esprit. Parce que moi, je me suis posé une question. S'il préférait être avec ses frères et souffrir, qu'est-ce qu'il faisait dans le désert pendant 40 ans? Il voulait souffrir avec ses frères et il se retrouve dans le désert seul. Qui plus est, il va rencontrer sa future femme, il va avoir des enfants, il va être berger. Mais ce n'est pas le plan que Moïse avait prévu, non? Il s'est dit, c'est pas ça que tu voulais, Moïse. Comment ça se fait que tu te retrouves dans le désert? Toi qui voulais souffrir avec ton peuple, tu ne souffres pas et eux, ils souffrent. C'est curieux quand même. Moi, j'ai trouvé ça curieux. Mais voyez-vous, elle avait bien compris les paroles du Seigneur. Maintenant, je vais lire ce texte. Actes 7, 23 à 30, si vous voulez le prendre. Acte 7. Prends également dans la parole. Même 22. Acte 7, 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, c'est ce qu'on disait. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vient qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, il les exhortait à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous les uns les autres, l'un et l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite, il alla séjourner dans le pays de Madian et il engendra deux fils. On peut s'arrêter là pour la lecture. Amen. Vous avez remarqué que souvent on pense que Moïse a fui pour fuir l'Égypte et Pharaon. C'est pas ça qui est écrit. Il a fui pour fuir ses frères et sœurs qui voulaient protéger et défendre. Alors ça, c'est quand même curieux, n'est-ce pas? Moi, je me suis posé tellement de questions sur ce texte. Mais on comprend bien qu'il avait reçu, c'est écrit, il a reçu sur son cœur, qui serait le libérateur, si vous préférez. Ce serait par lui que le peuple serait libéré. Mais il a voulu régler les problèmes par lui-même. Alors là, mes frères et sœurs, on va tous s'y retrouver. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, on reçoit des choses sur notre cœur. On prend position, on s'engage avec Dieu, mais on fait trop par nous-mêmes. Eh bien, quand on fait trop par nous-mêmes, vous savez ce qui se passe? Ça apporte beaucoup de problèmes. Parce qu'on ne s'appuie pas sur Dieu. Et ce que Dieu veut faire, quand il l'amène au désert, c'est de lui apprendre à faire confiance à l'Éternel. Même s'il n'est pas dans ce qu'il pensait vouloir, même si ce n'était pas ses plans et ses projets, il aurait aimé sortir directement avec le peuple de Dieu et se retrouver 40 ans tout seul, là, dans une famille, la famille de Madian. Et ce n'était pas ça qu'il avait projeté, mais c'est sûr qu'il avait besoin d'apprendre certaines choses. Vous savez, il avait besoin d'apprendre quoi? Hein? La patience, ouais. Je vais vous dire quelque chose. Il avait besoin d'apprendre la patience, la parole de Dieu le dit, c'est sûr. Mais il avait surtout besoin d'apprendre à plus trop s'emporter. Parce qu'imaginez quand il était dans le désert, s'il avait réagi à chaque fois que le peuple de Dieu murmurait comme il a réagi avec l'Égyptien. Il n'y aurait plus personne dans le désert. Hein? Ah oui, parce que quand il a reçu cela, il a pris la défense. Il a vu un de ses frères qui était outragé, il a tué l'Égyptien. Dieu lui a dit, il lui a mis dans son cœur qu'il serait le libérateur, mais jamais Dieu lui a dit d'aller tuer l'Égyptien. Il l'a fait par ses propres forces. Il l'a fait confiance en lui-même. Il s'est appuyé sur lui. Dieu ne lui avait pas dit cela. Et qu'est-ce que cela montre ? Cela montre que oui, Moïse était un homme patient, comme ça a été dit. Mais surtout que dans le désert, il a appris la patience. Parce qu'il avait un gros problème caractériel. Peut-être qu'il venait du sud de la France. Non, je plaisante. Il avait cette facilité à s'emporter, à se mettre en colère. Et c'est pour ça qu'il a pris un de ces retours de flamme terribles. Eh oui, il a pris un retour de flamme. Et la veille, il tue l'Égyptien, il le cache. Le lendemain, il voit deux frères se battre. Et il les exhorte, il les encourage à la paix. Et il le savait, hein, ce qui s'était passé. Il a dit, mais tu te moques de nous ? Toi, la veille, tu tues un Égyptien et après, tu nous encourages à la paix ? Oh, il a été saisi, là. Vous imaginez la situation ? Tu retour de flamme. Tu nous encourages. Qui t'a établi chef ? Qui es-tu pour nous ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Quand on compte sur nous et quand on s'appuie sur nous, mes frères et sœurs, ça sera toujours un frein. Et le Seigneur, eh ben, il veut nous amener dans le pays promis, mais il nous amène au désert pour apprendre à nous dépouiller de nos propres forces, de nos capacités, mais simplement de se tenir à genoux et dire « Seigneur, je suis complètement dépassé. J'ai besoin de passer plus de temps avec toi. » Et c'est ce que Moïse avait besoin d'apprendre. Parce que on va voir que c'est un problème qu'il a suivi pendant longtemps. Vous savez, la nature revient facilement au galop, à Avignon. Je ne sais pas, au bagne. Mais on se rend compte que Moïse, il avait ce problème qui était quand même récurrent. Vous avez remarqué que dans Exode 32, quand il est question du veau d'or, il dit, et comme il approchait du camp, il vit le veau et les dents. Oh là là. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Alors certes, dans sa colère, Moïse va mettre de l'ordre, cet ordre qui était nécessaire. Mais pourquoi il a jeté les tables ? Il s'est laissé emporter. Donc Exode 32, on apprend ça. Exode 34, vous relirez si vous voulez. Mais voici ce que lui dit l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre, retaille deux tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Pourquoi tu as fait ça, Moïse ? Tu avais besoin d'apprendre. On a tous besoin d'apprendre, mes frères et sœurs. On a tous reçu quelque chose du Seigneur. On veut tous s'engager pour Christ. On veut tous la défense de l'Évangile, la confirmation de l'Évangile. On aimerait tellement revoir, vivre et vivre un temps de réveil. Personne qui revienne à la simplicité, à la parole de Dieu, à cela, et on laisse toutes ces choses de côté. Mais Dieu, il nous apprend nous-mêmes à marcher comme il veut. C'est pas évident. Et je sais, mes frères et sœurs, que vous passez par une situation compliquée. Mais je peux vous dire qu'aussi à Avignon, c'était pas évident. Et qu'on est passé par le même désert. Et qu'on est toujours dans le même désert. Je pensais que vous auriez dit amen à ça. C'est pas grave. Voyez-vous, nombre 20. Vous savez, au bout d'un moment, le Seigneur va lui demander, parce que le peuple avait soif de frapper le rocher. Moïse, il va le faire, l'eau va jaillir. Vous connaissez ce passage. Mais dans nombre 20, on apprend aussi qu'au bout d'un moment, le Seigneur va lui dire, parle au rocher. Ça, c'est bien évidemment l'image de Christ qui a été frappé à la croix une fois, pas deux fois. Une fois, Jésus revient, il revient en Messie victorieux, glorieux. Alléluia. Pour délivrer. Pour mettre de l'ordre sur la terre. Mais Dieu lui a demandé de parler, mais parce que le peuple était extrêmement agaçant, il a frappé. Il a frappé le rocher. Deux fois. Et l'Éternel lui a dit, puisque tu as frappé le rocher, tu ne rentreras pas dans le pays promis. Et voilà, moi, ce texte m'a souvent laissé perplexe en disant, mais Seigneur, tu as été dur avec lui. Il a tellement été patient. Ce peuple était vraiment un peuple au cou raide. Mais la parole de Dieu nous le dit, Luc 12, 48. On demandera beaucoup à qui on en a beaucoup donné, on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Moïse s'est vu là arrêté et on sait que Dieu lui dira, j'ai vu un homme en qui réside mon esprit, vous connaissez Josué. Il n'a pas rebellé à cela, il a fait confiance à l'Éternel. C'est quelque chose quand même qui est merveilleux parce que oui, Moïse n'était pas un homme parfait. Aucun de nous, mes frères et sœurs ici, nous sommes parfaits. Nous avons tous nos défauts. Nous sommes tous emportés les uns et les autres par diverses choses, par traits de caractère, c'est sûr. Moïse l'était. Et Moïse a dû passer au désert parce que Moïse voulait apprendre. Et ça, c'était une qualité. Il a choisi Dieu. Il a choisi de laisser Dieu agir dans sa vie, de le former à l'école de Dieu. Et maintenant, nous avons tous besoin d'apprendre cela. Et je pense que on voit tous aussi, surtout pour les membres de notre famille, les progrès que Dieu a déjà engagés dans nos vies. Quand on imagine ce qu'on était et ce que Dieu a fait de nous, il reste de la marche. Mais quand même, on peut constater que le Seigneur agit. Amen. Voyez-vous, il n'est pas resté sur cette position-là, Moïse, en disant « je ne changerai jamais ». J'ai souvent entendu ça, pas au sein de l'Église, mais au sein de ma famille qui n'est pas convertie. « Ah, je suis comme ça depuis 40 ans, je ne changerai pas ». Ma mère qui dit, c'est pas maintenant qu'on va le changer. Hein? Ça, c'est bien pour les hommes. Ce n'est pas du tout le discours de Dieu. Dieu dira, ce que j'ai commencé en toi, je vais l'achever. Et vaut mieux laisser faire Dieu que de résister à Dieu par moment. Parce que sinon, on risque de tourner un bon moment dans le désert. Traversée qui devait durer 40 ans, au final, la traversée a duré 40 ans, mais je ne l'ai pas noté, je ne me souviens plus exactement. Je crois que c'était une traversée qui durait 3-4 jours. 2 jours. 2 mois à la marche. Waouh. C'est une grande différence entre 2 mois et 40 ans quand même. Moi, 3-4 jours, c'est parce qu'à Avignon, on marche très très rapidement. Mais c'est important, mes frères et sœurs, de réaliser que Moïse, il avait reçu cela sur son cœur. Il avait bien compris les paroles de Dieu. Il a reçu sur son cœur, relisez acte 7. Il avait ce fardeau de Dieu, cette promesse qui était là où il va libérer le peuple de Dieu. Ça, c'est une certitude. Il a bien reçu, il avait bien compris. Mais il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Au moment où il s'engage, lui, il n'est pas prêt. Et le Seigneur, il nous prépare. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous prépare à quelque chose. Ça va à quoi ? À son retour. Il prépare son église. Mais il prépare aussi son église dans sa mission. La mission de l'église, ce n'est pas que proclamer l'évangile, mais c'est d'enseigner à observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit. Alors dans ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Voyez-vous, l'église a un rôle important à jouer. Et l'ennemi de nos âmes viendra d'une manière ou d'une autre essayer de déjouer ces plans-là. Mais lui, il avait bien compris. Je dirais qu'il devait libérer le peuple de Dieu, mais il y avait le moment de Dieu. Quand nous, on a toujours tendance à vouloir accélérer les choses à faire vite. Non ? Souvent, je dis aux jeunes, je le dis encore, je vous rassure. Des jeunes qui viennent me voir, ils me disent « Jonathan, Dieu m'a dit que c'était elle, ma femme. Je vais aller la voir. » J'ai dit « Là, tu précipites un peu les choses. Tu devrais mieux attendre que Dieu lui dise aussi. Comme ça, t'es sûr. Et ça évitera beaucoup de problèmes. » Et je peux vous dire que si Dieu a mis dans le cœur, question dans le couple, quelqu'un sur ton cœur, eh ben, il mettra la même disposition dans le cœur. Il faut attendre le moment, le temps de Dieu. Et c'est comme cela pour tout. Il y a ce que Dieu nous dit, ce que Dieu met sur notre cœur et le temps où Dieu va agir. Pensez à Joseph. Alors, il était pressé, hein, vous allez tous vous mettre devant moi, à genoux, et passer par aussi un désert. Mais Dieu l'a préparé dans ce désert. Amen. Il faut toujours comprendre que Ésaïe 55, vous le connaissez bien. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ah, la meilleure école de Dieu, c'est le désert. Je ne connais pas où vous en êtes avec le Seigneur, mais si vous êtes au désert, c'est bon. Je le redis, c'est si bon de marcher avec le Seigneur. Et si le Seigneur il est au désert que j'y suis, je suis à la bonne place. Mais c'est que le Seigneur veut me former, il veut m'apprendre, il veut me rattraper, il veut que j'apprenne que toutes les richesses de l'Égypte, ça ne vaut rien. Oui, parce que quand ils se sont retrouvés avec tous les trésors qu'ils avaient embarqués de l'Égypte et qu'ils avaient eu faim et soif, là, ils ont dû dépendre de Dieu. Et l'or qu'ils avaient ne servait à rien. Apprendre à revenir à ces choses essentielles, c'est cela le désert, mes frères. C'est pour ça, souviens-toi de ces 40 ans que tu as passés dans le désert. Amen. Au bout d'un moment, le Seigneur a choisi son temps. J'ai bientôt fini, mes frères et sœurs. Comme ça, on laissera un peu de temps à la prière. Je sais qu'il faut finir pile à l'heure, mais je finis quand même avec ça. Le Seigneur va lui dire, c'est bon, Moïse, tu es prêt. Et là, Moïse, il change de discours. Il dit, Seigneur, non, envoie quelqu'un d'autre. Vous avez remarqué, souvent j'ai entendu ça des prédicateurs quand j'étais jeune. Ils disaient, Moïse, il avait des difficultés à parler. Il disait qu'il bégayait. Je n'ai pas vu le mot bégayer dans la parole de Dieu. Mais je me suis toujours dit, oui, ça ne devait pas être évident. Mais quand j'ai lu acte 7, je me dis, il était fort en parole et en acte. J'ai trouvé un décalage. Non, 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 Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. C'est beaucoup trop dur pour moi. En plus, j'ai du mal à parler. Je n'ai plus la confiance que j'avais. Je ne peux plus m'appuyer sur mes propres forces. Seigneur, non, je leur ai déjà dit. Ils n'ont pas écouté. Moïse répondit et dit, voici, ils ne m'écouteront point, ils n'écouteront point ma voix. Ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Il est en train de dire, j'ai déjà essayé de libérer le peuple, ça n'a pas marché. Oui, mais maintenant, tu as appris. Et vous avez remarqué la réponse, relisez ce texte, mais la réponse que Dieu donne, il dira, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Bien sûr qu'il était avec lui. Mais au moment où Moïse va dire, non, je ne peux pas, je ne suis pas pris, ils ne m'écouteront pas, ils diront que tu ne m'es pas apparu, le Seigneur va me dire, mais Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ah, j'ai une verge. Ah. Alors, on ne va pas la détailler, je dirais, ce soir, mais maintenant, tu as besoin d'une verge pour te tenir. Tu es plutôt jeune, Moïse. Ça ne va servir à rien de sortir les poings pour aller combattre les Égyptiens. Eh oui. Qu'est-ce que tu as dans ta main, Moïse? Une verge? Ça nous apprend à nous appuyer sur Christ. Tu ne peux plus régler les problèmes par toi-même, Moïse. Tu n'es plus assez fort? T'as perdu toute force physique. C'est ce qu'il a appris aussi dans le désert. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, maintenant, je ne peux plus y aller. Mais il s'est appuyé, il a fait confiance à Jésus. Je finis avec ce verset. Verset important. Exode 33, pour voir comment Dieu l'a formé dans le désert. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Seigneur, il lui dit qu'il sera avec lui. Et Moïse, il va encore une confirmation, il dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, ne nous fais pas partir, ne nous fais pas avancer. Quand on ne sait pas quelle direction prendre, mes frères et sœurs, tenons-nous devant Dieu. Si ce n'est pas toi, Seigneur, je ne veux pas avancer. Si c'est toi, tu me dis d'aller là-bas, je vais là-bas. C'est toi, Seigneur, mais il n'y a que toi. Je veux apprendre à dépendre de toi. Amen. Seigneur Jésus, nous te